Donc ce soir, on va parler de la relation. Il se trouve que j'ai regardé un documentaire ce matin et il y avait un moine zen, un maître zen qui a 104 ans et qui s'appelle, qui est japonais, Miyazaki, et il disait « Rien n'est plus important que soi-même, mais cela ne signifie pas qu'il ne faille pas s'intéresser aux autres ». Je trouvais qu'elle était tout à fait adéquate pour introduire cette soirée. Voilà, donc nous sommes importants, nous sommes même l'être le plus important au monde, puisque en fait nous sommes comme le héros de notre histoire. Partout où on aille, nous sommes au centre de ce qui se passe. C'est assez unique ça. Et en même temps, les autres sont là pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir avec... Tantra, tissu de relations. Alors, j'ai pris quelques notes. La première des choses au niveau pratique, il se passe des choses. C'est peut-être juste des chaises qui se remettent. Voilà, c'est le moine zen. Donc ce soir, on n'oublie pas de s'amuser. On est venu pour s'amuser ensemble. Parce que ce n'est ni grave ni sérieux ce qu'on va aborder. Ça prend juste des allures comme ça, mais ce n'est pas sérieux. Le tantra en général, ce n'est pas sérieux. Parce que ce qui est sérieux, ça réside dans le mental. Le tantra ne s'adresse pas au mental. Donc ce soir, c'est interactif. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui, tout d'un coup, vous ne le comprenez pas, que ça vous empêche de comprendre la suite, vous pouvez interrompre et poser une question. Donc il n'y a pas de... c'est pas structuré, la conférence, les questions, ça peut venir au milieu. Et puis moi, je vais vous dire des choses qui représentent ma vérité. Mais ce n'est pas... la vérité. Chacun a sa vérité. Donc, vous pouvez penser différemment de ce que je vais dire ce soir. C'est mon expérience, c'est ma vérité, c'est tout. Moi, j'ai commencé le tantra il y a 13 ans environ, et j'ai fait un premier stage très initiatique. C'était une initiation suivie d'une extase qui, pour moi, a duré 3 mois. Donc, c'était comme un rendez-vous. J'avais rendez-vous avec le tantra. Ce jour-là... j'ai trouvé que le tantra, c'était pour moi, parce que j'en ai vu les effets pratiquement immédiatement. Voilà, tantra, ça veut dire beaucoup de choses, c'est un mot qui est en sanskrit, c'est une très vieille langue, ça veut dire la trame ou la chaîne d'un tissu, ça veut dire aussi la relation, et puis au sens figuré, ça dit « se déroule en s'enchaînant ». Une action se déroule en s'enchaînant, etc. Voilà, donc le tantra, ça veut dire trame, ça veut dire tissu. Le tissu est composé d'un fil, c'est de la deuxième dimension, et lorsqu'on croise un tissu avec un autre tissu, on a une dimension supplémentaire, on est sur un plan, on est en deuxième dimension. Lorsque on a beaucoup de tissus, beaucoup de fils différents, de couleurs différentes, on a un tissu merveilleux. Ça peut être ça, le sens de trame dans le tantra. C'est les relations au sens de, on tisse des choses ensemble, chacun avec sa particularité, et les choses se déroulent en s'enchaînant, parce qu'on a enchaîné toutes nos particularités. Alors, c'est quoi le tantra? On dit aussi tantrisme. Les tantras, en fait, c'est un ensemble de textes, et le tantrisme, c'est la discipline. Mais c'est à peu près la même chose. C'est une voie spirituelle dans laquelle le masculin sacré se met au service du féminin sacré, et le féminin sacré se met au service du masculin sacré. Ça donne une union mystique, ça donne une fusion, pour retrouver notre vraie nature. On est des hommes, on est des femmes dans cette dimension-là, et le but, c'est de réunir dans le tantra les deux opposés pour retrouver notre nature qui est qui n'est pas polarisée, qui n'est pas sexuée, qui est une. Voilà. Donc, que nous soyons hommes ou femmes, on a tous ce féminin en nous, et le féminin, c'est accueil, sensibilité, amour, etc. Bien sûr, on les connaît, les qualités féminines. Et les femmes ont une structure cérébrale qui leur permet de développer davantage ces qualités-là. Chez la femme, le cerveau droit est bien plus développé, et c'est le siège des émotions, de la créativité. Voilà. Et puis, nous avons tous aussi le masculin sacré en nous. Le masculin, qu'on soit homme ou femme, nous l'avons. Et le masculin, ça représente la puissance, l'action, la décision. Et les hommes ont aussi une structure cérébrale qui leur permet de développer davantage ces choses-là. J'ai dit trois caractéristiques principales, mais il y en a des dizaines, hein. Gérer l'argent, la matière, les choses logiques, etc. Tout ça, c'est dans le yang. Donc, on parle d'énergie masculine et d'énergie féminine, sachant que homme ou femme, on a toujours les deux composantes, une étant plus développée que l'autre. Et puis, les hommes qui se mettent au service de leur féminin développent l'amour, la sensibilité, la créativité. Les femmes qui se mettent au service de leur masculin développent la gestion, l'art de décider, de trancher, de faire des choses physiques, hein, des choses dans la matière. Et puis, on va voir pourquoi maintenant le monde extérieur, c'est un reflet de notre monde intérieur. Comme nous sommes masculin sacré, féminin sacré, si nous étions tout seuls, sans aucune relation avec personne, on aurait du mal à retrouver notre vraie nature. Donc, comme les choses sont bien faites et que l'univers est parfait, nous rencontrons des gens, nous avons des relations avec des personnes qui nous servent de miroir ou qui nous servent de déclencheur. Vous allez voir que dans le Tantra, on exploite beaucoup cette caractéristique que les hommes et les femmes qui sont en face de moi peuvent me servir de miroir pour les choses en moi que je ne vois pas facilement, et puis peuvent me servir de déclencheur aussi pour les choses que je ne veux pas voir, par exemple. Je vais donner un exemple. Si je trouve qu'une femme est belle, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'ai une partie féminine qui est sensible à la beauté. Si je n'avais pas ça, je ne la remarquerais même pas. Si je n'étais pas sensible à la beauté, je ne la remarquerais pas. Donc c'est ma partie féminine qui s'exprime dans le miroir de la personne qui est en face. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas belle, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle sert à rien, mais elle sert aussi à révéler ce que j'ai en moi. C'est ça qui est beau également. Si moi, en tant que femme, si j'étais une femme et que j'étais touchée par la puissance d'un homme, par ses muscles, hein, voyez, ça veut dire que j'ai aussi, en tant que femme, à l'intérieur de moi, une partie masculine qui est sensible à la puissance, hein, qui est sensible à cette puissance, sinon je ne remarquerai pas la puissance, hein, elle ne me toucherait pas autant. Donc vous voyez que les choses que vous avez dedans sont reflétées par les choses que vous voyez dehors. S'il y a une chose que vous n'avez pas ou à laquelle vous n'êtes pas sensible, eh bien ça va passer inaperçu. Vous allez simplement ne pas remarquer ça. Et bien sûr, dans notre vie, il y a plein de choses qui passent et qu'on ne remarque pas. Nous n'y sommes pas sensibles. Donc, cette sensibilité-là que j'ai, que je développe, c'est le reflet intérieur que me renvoie le miroir extérieur. Donc, il n'y a pas autant de séparation qu'on pourrait penser. Ce qui est en face de moi et qui me touche, ça veut dire que ça correspond à quelque chose qui est en moi. Ça va, vous avez déjà eu l'occasion de vérifier ça dans votre vie, qu'il y a des miroirs, qu'il y a des déclencheurs. Voilà, et puis de la même manière, une femme qui est belle ou un homme qui est puissant peuvent déclencher en moi un désir de rapprochement, parce qu'on a tous une envie intérieure d'être complet. Hein, ça veut dire, si moi, j'ai pas cette puissance, si c'est moi, ou si moi, je sens que j'ai pas cette grâce, cette beauté, j'ai envie de me rapprocher de ça pour le faire mien, hein, pour apprendre comment être puissant, pour apprendre comment exprimer cette beauté. À l'intérieur de moi, ça dit, ah oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, cette beauté-là, c'est ça que je veux. Et c'est ce qui fait que je suis attiré. Hein. Cette puissance-là, ah oui, ça vraiment, ça me fait du bien. Hein. Et je vais essayer de... Oui, ça fait des vagues de l'autre côté, là-bas. Cette puissance-là, j'en ai envie. Parce que je la vois s'exprimer et je vois que ça me parle. Hein. Voilà, nous avons une envie intérieure d'être complet. Hein, d'être complet avec ce qu'on voit à l'extérieur qui nous touche et que nous n'avons pas, ou alors qui n'est pas développé. Qui est juste à l'état de germe à l'intérieur. Voilà, cette envie de rapprochement-là, on est déjà dans le tantra quand on parle de ça. Parce que, pourquoi les hommes attirent les femmes et les femmes attirent les hommes? Parce qu'on a envie d'être complet. Hein, intérieurement, on va chercher à l'extérieur ce qu'on veut développer à l'intérieur. On l'a déjà, mais ce n'est pas développé. Hein, ou, sinon, ça ne nous attirerait pas autant. Donc le tantra, c'est ça, c'est... un désir de rapprochement qui peut conduire à une union qui est mystique avec du sacré et qui fait que les énergies se complètent et qui fait que j'ai plus besoin de chercher ailleurs parce que dans ce couple-là, ce couple mystique, il y a une complétude, hein, il y a déjà la totalité. Toutes les qualités dont j'ai envie, je peux les développer avec ce couple mystique-là. Alors, il y a une réciproque au miroir, parce que inversement, le miroir, il peut vous renvoyer une image, il peut me renvoyer une image de moi qui me dérange. Hein. Par exemple, j'ai un gros point noir sur le nez, hein, et je vais regarder dans le miroir et je vais voir ce point noir que normalement je ne vois pas. Et donc le déclenchement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Christophe Alain qui en parle très bien. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe Alain avec deux L. Il dit, si le bouton sur le nez que je vois dans le miroir me dérange, ce n'est pas en cassant le miroir que je vais régler le problème du bouton sur le nez. Hein, ce n'est pas en agissant sur le miroir. Mais par contre, si je travaille sur moi et que je m'arrange pour faire disparaître le bouton, à ce moment-là, il va disparaître aussi du miroir. Et donc c'est très intéressant parce que je ne m'occupe pas du reflet, je m'occupe de ce qui a généré le reflet. Hein. Alors, quand il y a un déclencheur à l'extérieur de moi qui provoque une émotion en moi qui ne me plaît pas, ça parle aussi de moi, de quelque chose de moi qui se reflète comme le point noir se reflète. Par exemple, et ça c'est pas évident à accepter ni à comprendre, si je n'aime pas quelqu'un qui est mesquin, c'est que en moi, il y a une part qui a de la mesquinerie. Sinon, je resterai neutre, hein, sinon je ne réagirai pas à la mesquinerie. Je dirais, au pire, je dirais... Oh, le pauvre, il est mesquin, dis donc, qu'est-ce qu'il doit souffrir, cet homme, cette femme. Hein. Je ne jugerai pas la mesquinerie. Hein. C'est qu'elle est en moi, et c'est parce qu'elle est à l'extérieur que ça fait vibrer la partie en moi qui a aussi cet aspect-là. Il n'est pas forcément aussi développé, hein, mais je l'ai quand même en moi. Donc dans ces deux situations, le point noir ou alors l'émotion de colère, de mesquinerie que je vois à l'extérieur, elles sont là pour m'aider en me montrant à l'extérieur ce que je ne vois pas facilement à l'intérieur. Hein. Le bouton, je le vois mieux quand il est dans le miroir que lorsqu'il est sur mon nez. Et la mesquinerie, je la vois mieux quand elle est traduite par quelqu'un qui est à l'extérieur. Alors il y a un autre exemple, c'est le mendiant dans la rue. Soit j'ai de la compassion pour lui, soit j'ai de l'empathie pour lui, ou soit je passe et puis je me mets une œillère pour ne pas le voir. Bon, bien sûr, parfois, ça peut être le 15e de la journée, ok. Mais si je le regarde et je fais un sourire, c'est que je ne suis pas à ce point-là touché par sa misère. Hein. Mais si je suis gêné, c'est qu'il y a de la misère en moi. C'est pareil que le point noir, c'est pareil que la mesquinerie. Il y a quelque chose qui est misérable en moi, que je ne veux pas reconnaître, mais qui se reflète dans le mendiant. À ce moment-là, j'ai de la gêne hein, pour voir ce mendiant qui est misérable. Si j'ai réglé l'aspect misérable en moi, peut se traduire de beaucoup de manières différentes, si je l'ai réglé, le mendiant ne va plus me déranger. Voilà, et c'est parce que nous sommes tous des miroirs et des déclencheurs pour les autres que les relations sont aussi importantes pour nous. En fait, nous vivons dans un monde de relations. Aucun humain ne vit tout seul. Ça peut arriver très rarement, les enfants sauvages. Et encore, vous voyez que ces enfants-là, ils se développent d'une manière qui est très particulière, parce que les relations nous façonnent. Hein. Et on peut dire que depuis l'homme de Néandertal jusqu'à l'homme moderne, quand je suis éduqué par mes parents, la société, le tantra ou quoi que ce soit d'autre, c'est toute la chaîne de relations depuis le Néandertal jusqu'à aujourd'hui qui m'est transmise. Hein. Et si je ne suis pas éduqué du tout, ben je reste au niveau basique. Hein. Je suis avec zéro relation, zéro bagage. Hein. Le bagage, si l'homme de Néandertal n'avait pas inventé le feu, ben il n'aurait pas transmis, etc. Donc j'ai un bagage énorme grâce aux relations. Et ces relations, elles sont en grande partie véhiculées par les miroirs que nous sommes ou par les déclencheurs que nous sommes. Et donc c'est extrêmement important dans le tantra parce qu'on utilise ça, on utilise cette propriété que l'autre va nous refléter ou déclencher des choses en nous. Alors à quoi servent les relations depuis la petite enfance, le bébé est en relation immédiate avec sa mère, il est en relation fusionnelle. Les bébés qui ne sont pas en relation, qui sont retirés de leur mère, peuvent dépérir. Hein, ils peuvent avoir des retards de développement énormes. Et donc la relation, c'est carrément une nourriture, c'est vital pour un bébé. Voilà, pour son développement. Donc, les relations, elles nous servent à apprendre à devenir meilleurs, elles nous servent à nous développer. C'est parce qu'on fait des expériences avec les relations qu'on fait des choix et on voit si ces choix ont été utiles pour nous ou pas utiles pour nous. Et lorsqu'on aura à refaire ce choix, on pourra le faire en fonction de l'expérience précédente. Parfois même, c'est dans une vie précédente hein, qu'on a fait des mauvais choix. Et dans la vie d'après, ben, on se rappelle, il y a une part de nous qui se rappelle que ça, c'est déjà fait, ça ne m'a pas aidé à devenir meilleur, et donc maintenant je vais faire d'autres choix. Et de choix en choix, on s'améliore. Hein, c'est le but des relations, c'est le but aussi des réincarnations. Les réincarnations, c'est aussi une autre manière d'être en relation avec encore plus de personnes. Quelqu'un disait, si sur Terre vous devez expérimenter d'avoir toutes les nationalités, si sur Terre vous devez expérimenter d'avoir tous les statuts sociaux, d'être un homme, d'être une femme, d'être riche, d'être pauvre, une vie ne suffit pas, évidemment. Il faut des multitudes de vies pour expérimenter toutes ces expériences, et chacune de ces expériences, elle sert à me donner une autre facette de la vie et à devenir meilleur, à m'améliorer en faisant des expériences et en tirant des conclusions des choix que j'ai faits. Hein, c'est aussi simple que ça. Une collection d'expériences. Donc, le bébé a cette relation fusionnelle avec sa mère. Ensuite, on a une relation d'apprentissage avec nos parents, avec l'école. Nous avons des relations de compétition avec nos frères et sœurs, ou de complicité aussi avec nos frères et sœurs. Après, on peut avoir des relations d'attraction à l'adolescence ou de répulsion. Hein. À l'adolescence, ça s'exprime d'une manière forte. « Oh, je te kiffe » ou « Toi, je te kiffe pas ». J'ai ma bande et puis c'est parlant. Hein. Oui. Bon, c'est un peu amplifié, hein, l'adolescence. Nous avons des relations sociales avec le monde qui nous entoure, professionnelles. Nous avons des relations amoureuses lorsqu'il y a suffisamment de désirs mutuels. Hein, donc, quand c'est partagé, il y a une relation amoureuse qui se crée. Après, on a des relations de couple. Lorsqu'il y a, en plus de ce désir mutuel, il y a le désir de s'engager ensemble qui est présent. Alors, à ce moment-là, on s'engage dans un couple. Et vous verrez comment je fais la différence entre une relation amoureuse et une relation de couple. Et puis ensuite, il peut y avoir des relations sexuelles, et le but de ces relations sexuelles, c'est d'explorer un des plus grands niveaux d'intimité possible qu'on a sur Terre, hein, pour aller loin dans l'intimité. Et puis, il y a encore toute une foule d'autres relations, il y en a des centaines, hein, donc je ne suis pas exhaustif, hein, la relation intellectuelle, mentale, émotionnelle, spirituelle, même la relation platonique, etc. Donc, toutes ces relations-là, elles nous servent à nous construire, elles nous servent à apprendre, elles nous servent à nous améliorer. Alors, à travers ces miroirs, à travers ces déclencheurs, on peut ressentir quelque chose d'agréable. Ah, il me plaît bien celui-là. Je dirais pas non, hein, s'il venait me voir. Ou alors, on peut avoir une sensation désagréable. Ah, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mesquin. Bon, en vérité, vous savez de qui ça parle, hein. Donc, les sentiments agréables, à quoi ils servent? Ils servent à nous construire dans nos désirs profonds et à satisfaire notre chemin de vie. Ah oui, ça, ça me parle, ça nourrit mon âme, hein. Tous les sentiments agréables, ça me rappelle pourquoi je suis venu sur Terre, par exemple. Et les sentiments désagréables, ils nous renvoient une information sur ce qui reste à améliorer, ce qui reste à dépasser en moi pour être vraiment heureux. Si je me mets en colère facilement, c'est qu'il y a une partie en moi qui n'est pas pacifiée, qui aurait besoin d'être pacifiée, jusqu'à ce que je puisse rester beaucoup plus tranquille, même lorsque c'est agité en face de moi. Pour être vraiment heureux, j'ai besoin de régler, traiter, transformer, dépasser la colère. Quand j'aurai dépassé la colère, l'information que je reçois ne sera plus désagréable. Et tout au plus, ça sera neutre. Hein. Quelqu'un qui se met en colère après moi, si j'ai réglé ma propre colère, alors je vais rester neutre. Je vais dire, comme pour la mesquinerie, « Ah bah dis donc, le pauvre, pour me dire des choses pareilles, il doit sacrément souffrir. » Ou « Elle doit sacrément souffrir. » Donc, je ne prendrai plus les choses personnellement parce que j'ai traité la colère et donc, je me suis amélioré. Quand j'ai traité ma colère, je ne suis plus dépendant de ce qu'on va dire de moi, ou de si on me juge, ou si on me traite de mesquin, etc. Quelqu'un qui me dit mesquin, si je ne me sens pas mesquin, ça ne me fait rien. Mais quelqu'un qui dit mesquin alors qu'en moi il y a la mesquinerie qui ne veut pas se reconnaître, ça va me blesser. Hein? C'est important, hein? Donc c'est toujours l'histoire du déclencheur. Donc dès que j'ai réglé quelque chose, le déclencheur perd son effet, il n'a plus d'effet sur moi, parce que c'est traité, c'est guéri. Vous avez un bouton, quand il est à vif, il ne faut pas y toucher parce que vous hurlez. Après, il y a une cicatrice, ça fait mal, mais pas trop. Après, la croûte tombe, et puis ça ne fait plus du tout mal. Hein. C'est ça, la colère, elle peut être à vif, la colère, elle peut être en voie de guérison, et puis la colère, elle peut être guérie. Et à ce moment-là, le bouton, on a beau appuyer dessus, le presse-bouton qui est en face de vous ne pourra appuyer sur le bouton de la colère, mais il ne va pas la déclencher parce que le bouton est guéri. Et on a des tas de presse-boutons dans notre entourage. Et il y a le bouton de la mesquinerie, il y a le bouton de la colère, il y a le bouton de la jalousie, vous en connaissez d'autres? Voilà, on peut ouvrir une mercerie, hein, avec tout. Ça va jusqu'à maintenant? De temps en temps, je ferai des pauses comme ça pour vous laisser le temps de poser une question. Si, je ne vais pas faire que parler quand même. Donc, dans notre vie, à travers les relations que nous tissons, eh bien, petit à petit, nous tissons un ensemble de relations, un ensemble d'apprentissage. Hein, je l'écris en deux mots. J'apprends à tisser. Hein, donc, c'est un ensemble d'apprentissage qui nous aide à nous améliorer et qui nous aide à être de plus en plus heureux. Le but de cet apprentissage, c'est d'être de plus en plus heureux. Parce que, à travers tout ce qui ne me rend pas heureux, tout ce qui me fait réagir, eh bien, je peux voir que ça m'appartient, et puis tourner le regard vers l'intérieur et le régler à l'intérieur de moi. Alors, et dans le tantra, alors, les relations, hein, c'est le sujet de cet entretien ce soir. Dans le tantra, on fait exactement la même chose, hein, mais en accéléré. Hein, on le fait en accéléré, on le fait en focalisant notre attention sur les miroirs et sur les déclencheurs. Donc, dans les groupes de tantra, les exercices qu'on fait à deux ou les exercices qu'on fait en groupe, ils se font pratiquement tous en nous appuyant sur des miroirs et sur des déclencheurs qui sont extérieurs, qui nous rappellent nos vrais désirs ou qui déclenchent nos limites. On le fait à un rythme qui n'est pas celui de la vie sociale. On le fait puisqu'il y a des occasions, des prétextes d'exercice pour rencontrer ces miroirs, pour rencontrer ces déclencheurs. Un déclencheur, il va me rappeler que, ah non, pas si vite parce que moi j'ai peur. Hein. Et dans le tantra, comme il y a des exercices, ces exercices vont nous faire rencontrer plus de miroirs qui nous renvoient les choses qui nous attirent et plus de déclencheurs qui nous déclenchent nos émotions difficiles ou nos limites. Mais en vérité, ils nous aident, tant les miroirs que les déclencheurs nous aident. Alors, pourquoi le tantra et qu'est-ce qu'on fait dans le tantra? Alors, le tantra, il vous dit, entrez dans la serre. La serre, c'est ça, c'est cette pièce. Hein, quand on fait du tantra ici, c'est une serre. Dans la serre, il fait bon, il fait chaud. Il y a plein de nourriture relationnelle à explorer. Vous faites toutes les expériences que vous souhaitez parce que le cadre est plus sécurisé que dans la vraie vie. Hein. Vous respectez juste une règle qui est de ne jamais vous forcer et de ne jamais forcer l'autre à faire quoi que ce soit. Quand vous serez grand et fort, en ayant appris tout ça, vous sortirez de la serre et vous aiderez les autres en leur donnant l'exemple d'une personne rayonnante. Et vous leur donnerez aussi l'adresse de la serre. Ça, c'est un peu intéressé. Mais en résumé, c'est ça. Le tantra, c'est une serre dans laquelle on s'extrait du monde social pour se limiter aux relations de miroir et aux relations de déclencheur pour apprendre en accéléré. Et on apprend en accéléré en une journée ce qu'on peut apprendre en un an dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'occasions fournies par les exercices. Les exercices sont pensés de manière à vous donner un miroir ou à vous donner un déclencheur. Et si vous êtes tranquille avec ce miroir, bah vous savez que ce miroir vous renvoie le positif que vous avez en vous, la tranquillité que vous avez en vous. Si vous êtes dérangé par ce miroir vous renvoie le dérangement qui est en vous. Hein, c'est toujours de vous que ça parle. Alors, si on peut dire autrement, le tantra sert à mettre une plus grande dose de liberté dans les relations, en déconditionnant le mental. Et on le fait avec des exercices simples pour faire grandir notre liberté et se diriger vers l'autonomie affective dans les relations aux autres. Donc, on exploite la capacité à être plus libre et la capacité du tantra à déconditionner le mental. Dans le tantra, on essaye de s'extraire du cadre habituel qui dit « fais ci mais pas ça », dis bonjour, traverse dans les clous, voilà. Mais là, dans le tantra, on n'est pas moral. On dit, fais ce que tu as envie de faire. Alors, respecte les règles, mais fais ce que tu as envie de faire. Et les règles sont simples. Ne te force pas, ne force pas l'autre. Hein, ça, si on peut résumer en une seule Il y en a plusieurs, mais celle-là est la plus importante. Donc dans le Tantra, on essaie de trouver la liberté intérieure qui permet de dire un vrai non à une personne ou à une situation dont je ne veux plus, et qui permet de dire un vrai oui à mes désirs profonds. Ça nécessite d'avoir une liberté à l'intérieur, d'être pas conditionné. Le conditionnement, il peut dire, je pense non, mais je vais quand même dire oui parce que j'ai peur qu'il se fâche, et puis d'être jugé ou d'être qu'il y ait des représailles après. Voilà, dans le Tantra, on essaie de se respecter, c'est-à-dire que quand il y a un non à exprimer, eh bien on dit un vrai non. Et quand il y a un oui à exprimer, on dit un vrai oui. Ça a deux avantages, hein, de pouvoir dire un vrai non. Ça veut dire que la fois où vous direz oui, la personne saura que c'est un vrai oui, puisque c'était un vrai non. Hein. Forcément, il y a un vrai oui en face. C'est quand vous ne savez pas dire non que le oui est ambigu. Hein, le oui ne se dit pas et le non ne se dit pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice dans le Tantra? Je suis sûr que ça vous intéresse. Tout à l'heure, on va en faire un. Mais je vais vous donner quand même deux exemples. Hein, parce que le Tantra, ce n'est pas de la littérature, ce n'est même pas cette conférence. Le Tantra, c'est de la pratique. Hein. C'est qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens. C'est ça, le Tantra. Premier exercice, vous vous asseyez en face de quelqu'un, je décris hein, simplement, on ne va pas le faire. Vous regardez en douceur les yeux dans les yeux, hein, on est à 50 cm ou 1 mètre l'un de l'autre. C'est généralement un homme en face d'une femme, il y a des raisons à ça. Si vous êtes touché ou ému par ce regard, vous regardez en quoi cela parle de vous, hein, qu'est-ce qui est touché en vous. Si vous êtes gêné ou si vous êtes dans la confusion, regardez toujours en quoi ça parle de vous. Hein. Après 20 minutes, on échange les ressentis. Donc, encore une fois, on a vécu quelque chose en accéléré. Hein. Je te regarde les yeux dans les yeux et j'ai ressenti une grande facilité à te regarder profondément. J'ai senti que tu ne te protégeais pas, par exemple. J'ai senti que je laissais entrer ton regard et que se passait énormément de choses. Ou je peux me protéger, ou je peux scruter l'autre, fixer l'autre, ou alors je peux détendre mes globes oculaires. Il peut se passer énormément d'expériences. Mais 20 minutes, c'est un condensé d'un regard qui parfois dure une demi-seconde. Hein. Vous allez voir quelqu'un dans la rue, vous allez regarder une demi-seconde, et puis le code moral vous dit « baisse les yeux ». Parce que si tu fixes quelqu'un qui est dans la rue, c'est un message. Hein. Là, on ne baisse pas les yeux pendant 20 minutes, donc il se passe des choses qui ne se passent pas dans la vraie vie. Hein, sauf si on décide de faire ça à deux. Hein. Donc ça, c'est un exercice avec lequel on peut commencer le Tantra, parce qu'il est doux, simple, et en même temps, il est parlant. Il est parlant parce qu'il nous renseigne beaucoup sur notre état émotionnel à l'intérieur. Deuxième exemple, vous êtes les yeux bandés, vous êtes en grand groupe, tout le monde est debout, tout le monde est habillé, tout le monde se promène et rencontre d'autres personnes avec ses mains. Alors, grâce au bandeau, il n'y a pratiquement plus de jugement dans la pièce. Parce que tout le monde est anonyme, vous ne savez pas qui vous rencontrez. Donc, il n'y a pas de jugement. Avec cet anonymat-là, avec le couvert de cet anonymat, vous regardez toutes les autorisations que vous vous donnez et que vous ne vous donneriez pas en temps normal. Et vous pouvez remercier le bandeau pour ça. Parce que vous faites bien plus de choses que si vous aviez les yeux ouverts. Et inversement, malgré le bandeau, certaines autorisations auront quand même du mal à être données. Hein. Parfois, ce sera juste de dire non à ce qui se passe, mais parfois, vous dites non alors que vous auriez bien aimé dire oui à cet endroit-là. Et donc, vous pouvez aussi apprendre de cette situation. Hein. Pourquoi j'ai dit non alors que dans l'anonymat du bandeau, cette chose qui m'était proposée, finalement, elle n'était pas aussi engageante que si je savais qui c'était, etc. Pourquoi j'ai dit non? Est-ce que j'ai l'habitude de dire non? Est-ce qu'il y a une peur qui est venue? Donc, je vais apprendre de cette situation. Hein. Et dans Tantra, on utilise beaucoup les bandeaux parce que, à part bander les yeux, ça bande les jugements, hein, puisque beaucoup de jugements passent par les yeux. Donc, quand on est anonyme, on peut faire énormément plus de choses que quand on est les yeux ouverts, hein, quand on est avec son identité. Et que je me sois autorisé des choses avec le bandeau, que je me sois refusé des choses avec le bandeau, dans tous les cas, il y a un enseignement qui m'est donné sur moi-même, hein, dans tous les cas. Que j'ai eu une peur, ça donne un enseignement. Que je me sois autorisé des choses, ça donne aussi un enseignement. Et le but de ces enseignements, c'est de me faire grandir. Et les temps de parole en grand groupe sont là pour aider à clarifier quel enseignement était là pour vous et à quel moment. Parce que parfois, vous recevez un enseignement, mais vous n'avez pas compris qu'il était pour vous, vous n'avez pas compris quel enseignement c'était. Donc il en reste parfois des sentiments de confusion, il en reste parfois des sentiments difficiles, et en grand groupe, on clarifie quel était l'enseignement positif pour vous, même s'il s'exprime avec une gêne, avec une confusion, avec une difficulté intérieure. Donc il y a toujours un temps de parole au début pour dire comment j'arrive, et un temps de parole à la fin pour dire comment je repars, pour qu'entre les deux, l'alchimie du tantra puisse opérer. Et maintenant, je vais poser une question que beaucoup posent, et peut-être je veux la poser avant vous. Et la nudité dans le tantra? Je suis sûr que ça vous traînait un peu dans la tête, quelque part. Même si ce n'est pas le cas, c'est une question qui revient très souvent. Hein. Alors, dans les structures qui sont plus avancées dans le tantra, on peut faire l'expérience de pratiques dans lesquelles la nudité est proposée, mais elle n'est jamais imposée. Pourquoi? Parce que ça doit toujours rester un choix personnel. Et quand on parle de nudité, on ne parle jamais de la nudité pour la nudité. On parle de nudité qui reflète une certaine liberté corporelle. Hein? S'il n'y a pas de liberté corporelle, c'est juste de ne pas se mettre à nu. Pas tout de suite et pas trop vite. Hein? Donc il y a toujours quelque chose de progressif avec ça. Et elle n'est jamais impliquée dans les groupes d'initiation, dans les groupes qui sont des étapes préalables, comme les soirées tantra. Hein, il n'y a jamais ces structures-là. Cela dit, la peur de la nudité vous renvoie à la peur de votre corps et à la peur du jugement qu'auront les autres sur votre corps et la peur de vous montrer. Donc, là encore, il y a enseignement. Mais dans ces choses-là, comme les peurs sont profondes et tenaces et qu'elles sont véhiculées aussi par la société et par l'éducation, on y va doucement. Hein. Dans le tantra, on ne fait jamais les choses. Vous ne serez jamais forcé à vous déshabiller. Hein. Ce sera toujours une invitation que vous pourrez décliner à un moment ou à un autre. Voilà, et dans un groupe, il y a des règles. Pourquoi il y a des règles? Parce que dans la serre, il y a aussi des règles. Hein. Par exemple, dans la serre, il fait entre 25 et 30 degrés. Le taux d'humidité, c'est ça. Pour les plantes, c'est une sécurité. Hein. Et dans la serre du tantra, il y a des règles qui disent qu'on va faire grandir la sécurité pour que les jeunes pousses puissent se développer sans dommage. Hein. Et les trois règles principales, c'est simplement respectez-vous, respectez l'autre. C'est simple et c'est évident. Mais on le dit et on le fait respecter. Je le fais respecter. La deuxième règle, c'est non-jugement absolu. Comme on fait des choses qui nous extraient du cadre social, on ne se juge pas et on ne juge pas les autres. Et ça enlève beaucoup de difficultés dans nos vies qui sont dues au jugement. Le jugement, c'est la cause de 90% des difficultés qu'on vit. Donc, non-jugement absolu, parce qu'on est là pour faire des expériences, pour nous faire grandir. Donc c'est normal qu'on sorte du cadre social. On ne se juge pas pour ça. Et la troisième, qui est très importante, il n'y a pas d'enjeu avec l'autre. Il n'y a pas d'enjeu, ça veut dire que c'est pas des groupes pour fonder un foyer, pour créer un couple, etc. Même si on est en parité, l'enjeu c'est moi et comment moi je peux grandir grâce à ces exercices. Donc l'enjeu c'est de moi à moi, hein. C'est pas de moi à l'autre. Je ne vais pas casser le miroir parce qu'il me renvoie une image de moi qui ne me plaît pas, même si c'est un miroir déformant. Et je ne vais pas emporter le miroir à la maison chez moi parce que j'aime bien l'image qu'il me renvoie. Ça reste un miroir. Donc, pas d'enjeu avec les déclencheurs, pas d'enjeu avec les miroirs. Et comme ça, vous revenez à vous. Et là, ces trois règles-là, elles ont l'air simples, mais en vérité, grâce à ces trois règles-là, lorsqu'on évolue dans un espace de non-jugement et de respect, le défi de ce que j'autorise, ce que je n'autorise pas, tout d'un coup, il n'est plus par rapport à l'autre, il est par rapport à moi. Puisqu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de défi par rapport à ça, puisqu'il y a l'autre ne peut pas me forcer, il n'y a pas de jugement ni de défi par rapport à ça, il n'y a que le défi, est-ce que je vais dire oui à cette proposition ou est-ce que je vais dire non à cette proposition que l'autre me fait ou que moi je fais au groupe. Et donc, vous avez des défis intérieurs. Au lieu d'avoir des défis extérieurs qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, vous avez des défis intérieurs où vous êtes 100% maître et maîtresse de ce qui se passe. Donc, ce cadre sécurisé, cette serre, elle est de nature à permettre un climat de confiance dans lequel les autorisations intérieures peuvent se donner plus facilement. C'est tout. C'est simplement ça. Hein. On introduit un climat dans lequel il y a plus de confiance, on introduit un climat dans lequel il y a beaucoup moins de jugement que dans le monde extérieur. Alors, il y a une phrase qui est assez représentative du tantra pour moi, c'est l'autre en tant que miroir, c'est une manière d'utiliser le deux pour se rappeler qu'il n'y a pas deux. En vérité, il y a moi et il n'y a que moi, mais je me vois dans le miroir. Et dans le tantra, on utilise le deux pour se rappeler qu'il n'y a pas deux. Le pas deux, c'est l'unité, l'union mystique dont je parlais au tout début. Ce moi qui est indifférencié, qui n'est ni masculin ni féminin, qui est la réunion des deux. Et c'est ça le pas deux. Et dans le tantra, on utilise le deux pour se rappeler qu'il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on est tout le temps en parité dans les groupes de tantra. Il y a autant d'hommes que de femmes, sauf ce soir, parce que c'est particulier. C'est pour que chacun ait son miroir personnel. Le miroir du sexe opposé, puisque c'est un miroir encore plus particulier que les autres. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans les stages de tantra? Donc, dans les stages, les exercices peuvent être des danses lentes ou rapides. On a vu ça là, tout à l'heure. Il peut y avoir des percussions, il peut y avoir des exercices de respiration, des exercices avec le souffle. Il peut y avoir des mouvements avec le corps, il peut y avoir du massage, il peut y avoir de la sensualité, des espaces de témoignage. Il peut y avoir l'exploration des polarités féminines et masculines. Il peut y avoir l'exploration des mouvements d'énergie dans le corps. Il peut y avoir de la méditation et du recentrage. Et il peut y avoir des surprises. Il y a des choses que je ne vous dirai pas. Et qui ne sont pas non plus dites à l'avance dans le tantra. Parfois, c'est important d'être surpris. Parfois, c'est important de ne pas s'attendre à quelque chose. Je vais vous donner un exemple de surprise. Mais ce n'est pas moi qui le faisais, c'est le maître tantrique qu'on appelle Osho. Osho, c'est celui qui a introduit le tantra en Occident. Osho, pendant qu'il y avait 500 personnes ou 1000 personnes qui dansaient ensemble dans un grand hall, il prenait le micro et puis il hurlait « Stop !» Mais alors, à fond, dans le micro, et tout le monde avait la consigne de s'arrêter immédiatement. de s'immobiliser complètement. Et ça pouvait intervenir à n'importe quel moment, ce stop. Même si je suis en train de lever un pied, là je reste un pied en l'air. C'est comment on appelle ça, un flash mob. Hein, un flash mob tantrique. Donc, ce stop-là, c'était une surprise. Il visait à surprendre le mental. Parce que quand le mental prévoit des choses et qu'il est surpris par ce stop, dans ce stop, il peut y avoir des compréhensions. Il peut y avoir, dans le soudain de quelque chose, il peut y avoir une compréhension. François, tu as verrouillé le... Merci. Et donc, selon le moment, nous pourrons être amenés à travailler les yeux bandés ou les yeux ouverts. Nous pourrons être amenés à travailler seuls. Nous pourrons être amenés à travailler entre hommes et femmes, en petits groupes, en groupe d'hommes séparément et de femmes séparément, ou en grand groupe. Il y a des structures multiples. Dans chaque groupe, on commence par un partage de paroles et on termine sur un retour d'expérience. Donc le retour d'expérience, c'est souvent la synthèse la plus importante de la journée pour vous. Qu'est-ce que vous avez appris de principal ? Même si ce n'est pas vous qui l'avez appris, si c'est un autre qui l'a appris, par le fait qu'il va dire son expérience et qu'un retour sur qu'est-ce qui a été positif pour lui va être donné, vous pourrez raisonner parce que vous êtes aussi des êtres qui raisonnent, parce que vous avez certainement vécu une situation similaire dans votre vie. Donc à part d'être des miroirs et des déclencheurs, on est aussi des gongs, des cloches. Hein. Quand il y a un son qui est fait sur une cloche, la cloche d'à côté se met en résonance parce que les vibrations se propagent. Je fais une petite pause de respiration. Profitez-en pour poser vos questions, s'il y en a. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions qui fâchent, hein, surtout. Oui, bien sûr. C'était une question comme une autre. L'invitation active, c'est du tantra, oui. Tout ce qu'a fait Osho, tout ce qu'a introduit Osho comme exercice dans sa vie, c'est du tantra, oui.
Est-ce que ça se fait tout seul?
Ça se fait tout seul. C'est une forme de tantra qu'on pratique seul. Mais dans le tantra, on peut aussi faire des méditations tout seul, même des méditations passives. Ça fait partie du tantra. Parce que le tantra, c'est la rencontre avec moi-même. Parfois, c'est avec l'autre, mais parfois, c'est de moi à moi. Donc, les méditations actives, c'est, quelqu'un disait, c'est le 113e précepte parmi les 112 que le Tantra, qui date de 10 000 ans, a donné. Osho a rajouté un 113e. Et ce 113e, c'est la méditation active qui dit, si vous ne pouvez pas vous asseoir tranquillement de vous à vous en silence, commencez par bouger le corps, commencez par respirer, et ensuite asseyez-vous. Et vous verrez que là, les choses deviennent plus possibles. C'est ce qu'on fait dans la méditation active. Ça a l'avantage que c'est moins impliquant que le tantra, mais ça donne déjà un aperçu du tantra. C'est un espace d'expression des émotions, de libération, et le tantra, c'est aussi une voie de libération, mais de libération du mental. Hein. Et donc, quand je libère mes émotions, ben, je commence déjà à être plus libre. Donc, on peut commencer par la méditation active, que j'enseigne chaque mercredi. D'ailleurs, ça commence mercredi prochain. Ça recommence, et puis on peut continuer par le tantra qui est une sorte d'évolution. C'était une bonne question. Oui, c'est du tantra. Bon, les applaudissements tout à l'heure. Tout à l'heure. Osho, il est décédé en 1990. Ouais, c'est un sage mystique indien qui a eu une sorte d'extase. Étant jeune, et puis qui a commencé à enseigner assez rapidement le tantra. Alors, ce qui est particulier, c'est que lui, il a conçu une version du tantra pour l'Occident, qu'on appelle le néo-tantra. Donc, il a adapté, parce que ce que l'Inde mystique peut faire comme exercice et comme comprendre aussi comme enseignement, l'Occident plus moderne aurait plus de mal. Donc, il a adapté des choses. L'aspect sensualité, énergie sexuelle, il l'a un petit peu développé aussi parce que c'est un aspect qui est extrêmement bridé dans nos sociétés actuelles. C'est-à-dire on n'en parle pas facilement, on le montre pas facilement, on ne le réalise pas facilement. Donc ça parle de libérer hein, ce qui est retenu. Ah, pourquoi est-ce qu'il déclenche autant de haine? C'est une bonne question. Les gens qui disent la vérité, en général, ne sont pas les bienvenus parmi les gouvernements et parmi les religions, parce que ce sont des dogmes. Hein. Quand Osho n'aimait pas les politiques, et le tantra n'est pas politique, Osho n'aimait pas les religieux, mais le tantra n'est pas une religion. Hein. On va dire le tantra est amoral, apolitique et areligieux, c'est-à-dire il n'est pas tout ça. Donc, Osho dénonçait les choses, les mainmises et manipulations des politiques, dénonçait les mainmises et manipulations des religions, et donc n'était pas du tout apprécié par les chefs religieux et par les chefs politiques. Au point que, lorsqu'il a dû, ils lui ont cherché des soucis avec le fisc en Inde, ils ont réussi à l'expulser, ils l'ont mis dans un avion. Et ensuite, cet avion a essayé d'atterrir dans un pays qui a refusé l'autorisation d'atterrir parce qu'il y avait Osho dans l'avion. Et ensuite, l'avion a tourné en demandant à 20 pays l'autorisation d'atterrir. Et les 20 pays ont refusé parce qu'ils faisaient peur. Bon, le dernier qui a fait peur à ce point-là, c'était Jésus-Christ. Hein, on sait comment il a fini aussi. Donc finalement, il a réussi à être accepté aux États-Unis, mais on dit qu'il aurait été empoisonné avec des métaux lourds, etc., qu'il est mort en prison. Il est mort dans les années 90. Ouais. Il serait mort par des choses indétectables, enfin des métaux lourds. Bref, ceux qui disent les choses telles qu'elles sont ne sont pas les bienvenus pour les instances dirigeantes, hein, quels que soient ceux qui dirigent. Voilà, puis bon, à part ça, Osho pratiquait l'art de la provocation, hein, et donc c'était une raison de plus. Mais l'art de la provocation, on pourra en reparler, c'est pas un discours sur Osho, mais on peut provoquer de manière à nuire, et on peut provoquer de manière à réveiller quelqu'un aussi. Donc il y a deux façons de provoquer. Osho pratiquait la provocation positive, comme le stop, hein, c'est réveillez-vous avec ce stop, regardez ce qui se passe quand tout d'un coup, votre mental est interrompu. Hein. C'est une provocation aussi. Alors, les stages qui se passent à Romainville se passent ici, dans cette pièce, dans tout ce lieu même. Ils sont autogérés en termes de nourriture, en termes d'organisation des repas. C'est pour ça qu'ils sont moins chers que la plupart des stages en pension complète. Et dans ces stages, on mène une vie collective dans laquelle chacun collabore, puisque ça, ce n'est pas inclus dans le prix. Mais dans le prix que vous payez dans les stages qui sont résidentiels, il y a inclus l'hébergement en salle de travail. La salle de travail, c'est cette salle. Donc, c'est tout compris. Il n'y a pas un hébergement séparé que vous devrez payer. Donc, ça fait aussi que c'est moins cher. Voilà, ça c'est pour les exercices et puis les stages, comment ils se structurent. Cette année, je vais faire les choses assez différemment de ce que j'ai fait les années dernières. J'ai eu une sorte de flash il y a deux semaines. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. D'abord d'axer le tantra sur la relation, parce que tantra veut dire relation, ça c'est une chose, et ensuite de faire des cycles qui durent une année entière, et dans lesquels on peut aller du début à la fin d'un cycle en apprenant de plus en plus profondément. Et j'ai conçu trois cycles annuels. mais ils ne sont pas équivalents, c'est-à-dire qu'on peut entrer plus ou moins profondément en fonction du cycle qu'on choisit. Si on ne connaît rien au tantra et qu'on a envie de démarrer très doucement avec un plan incliné très lent, on peut choisir le cursus annuel des soirées tantra tissu de relation. Donc c'est 15 soirées qui s'appellent tantra tissu de relation, qui sont adéquates pour s'initier au tantra en douceur, avec progressivité, qui sont ouvertes à tous ceux qui sont individuels, il n'y a pas besoin de venir avec quelqu'un, mais vous pouvez aussi venir en duo avec quelqu'un du sexe opposé, ou vous pouvez aussi venir en couple, mais la parité, c'est moi qui la gère. Alors moi, je conseille de suivre l'intégralité du cursus. Cependant, chaque soirée est conçue quand même pour être indépendante avec son propre thème des autres soirées parce qu'elle aborde un aspect particulier. Il n'y a pas de continuation d'une soirée à l'autre de quelque chose qu'on devrait retenir de la soirée précédente, mais il y a quand même un fil continu de toutes les soirées entre elles, et ce fil continu, c'est la relation sous tous ses aspects, et cette relation, elle va s'étoffer au fur et à mesure des soirées. Donc si dans les 15 soirées, vous pouvez en faire que 12 ou 13, vous avez déjà un bon aperçu. L'idéal étant de faire les 15. Mais vous pouvez aussi dire, tiens, j'ai envie de savoir à quoi ça ressemble, je m'inscris à une soirée pour voir. Je vais vous dire, il y a des dates. Il y en a à peu près... il y en a 15 dans l'année. Donc ça fait à peu près 2 par mois, environ. Ou une toutes les 3 semaines, on peut dire. Ce n'est pas régulier, ce n'est pas tous les temps. Tous les temps de... À peu près, mais je vous donnerai les dates précises. Donc ça, il y en a 15 dans l'année, c'est ça que vous devez retenir, l'année étant de septembre à juin.
Mais elles sont là les dates, monsieur ?
Elles sont là les dates, oui, les dates sont fixées.
Non, mais je veux dire, il y a des feuilles là.
Oui, voilà. Oui. Oui, oui, vous repartirez, si vous le souhaitez, avec les dates. Alors, le cycle annuel de ces 15 soirées comprend 9 soirées d'initiation qui sont ouvertes à tous, sans aucun prérequis. Ça veut dire que vous pouvez démarrer sans connaître du tout le tantra. Même si vous n'avez pas assisté à cette conférence, vous pouvez venir. Il y a ensuite 4 soirées de niveau 1, et le niveau 1, c'est le prérequis, c'est d'avoir déjà participé une fois à un groupe de tantra, quel que soit le groupe. Si vous avez fait une soirée d'initiation, vous pouvez participer au niveau 1. Mais si vous êtes débutant complet, vous ne pouvez pas participer au niveau 1, il faut déjà connaître un peu le tantra. Une seule soirée est suffisante. Et puis en fin d'année, il y aura une soirée de niveau 2, qui est plus impliquante, mais c'est la fin de l'année, et elle nécessitera d'avoir participé 2 fois à une soirée de niveau 1. Ça veut dire que le niveau 1, vous avez déjà participé à une soirée, ensuite 2 fois le niveau 1, et ensuite le niveau 2, ça fait au moins 4 soirées, donc en tout. 3 soirées avant le niveau 2. Bien sûr, vous pouvez en cumuler beaucoup plus que ça. Alors, pour favoriser la participation, je propose un engagement à l'année avec un tarif préférentiel, si vous optez pour toutes les 15 soirées. Mais s'il n'y a pas de possibilité pour vous, vous pouvez aussi vous engager pour 5 soirées ou pour 10 soirées, sachant qu'à chaque fois, vous avez des tarifs adaptés. Chaque soirée séparée sera une soirée au plein tarif. Et chaque soirée qui fait partie de 5, 10 ou 15 sera une soirée avec un tarif engagement. Et quand vous vous engagez, vous ne payez pas tout d'un coup. Vous pouvez dire, je fais 10 chèques, 5 chèques, etc. Les chèques ne sont pas encaissés avant les soirées elles-mêmes. Donc, c'est une sorte d'engagement. Ça, c'est le premier cursus. C'est le plus doux de tous. Alors, dans ce premier cursus, il y a des soirées qui se passeront à Paris 20e, métro Alexandre Dumas. C'est une salle qui a à peu près cette taille, qui n'est pas très loin du métro. C'est des soirées de 3 heures. Et puis d'autres soirées qui se passeront ici, Ça sera le jeudi pour Paris 20e et le vendredi pour ici. Les soirées ici durent 4 heures et donc on va un tout petit peu plus loin dans les soirées du vendredi, un certain vendredi. Et puis il y a un cursus annuel de journée et de week-end tantra tissu de relations. Donc là, on commence avec plus de temps. C'est pas 3 heures, c'est une journée complète. C'est une approche plus approfondie pour expérimenter la démarche tantrique que j'appelle tissu de relations. Donc il y a dans tissu de relations, il y a 5 composantes. Celles-là, vous les retrouverez dans la démarche qui est aussi imprimée. Mais en gros, c'est la relation de moi à moi, la relation de moi à l'autre, la relation amoureuse, la relation de couple et la relation au tout. C'est 5 parmi d'autres, ce n'est pas toutes les relations, mais c'est celles-là sur lesquelles qui sont significatives dans notre vie, disons. Donc, dans ce cycle, ce deuxième cursus annuel journée et week-end, on explorera plus en profondeur les 5 composantes de la démarche. Donc, il y aura plus de temps, et ça voudra dire s'autoriser davantage de temps pour s'apprivoiser aux autres, faire confiance, être authentique. Parce que plus vous êtes authentique, et plus vous pouvez vous rencontrer vous-même dans les stages de tantra. Donc, il y aura un cycle annuel progressif et ce cycle est composé de 10 rencontres dans l'année pour approfondir le tantra sous l'angle de la relation. Par exemple, une des questions qu'on pourra se poser en cours d'année, c'est qu'est-ce que ma relation à toi m'apprend sur ma relation à moi ? Ça peut être une des façons qui sera expérimentée par des exercices. J'aurai un exercice où il y aura une relation avec l'autre et quel apprentissage je ferai pour la relation de moi à moi dans cet exercice-là. Donc on va jongler entre les relations. Alors, de la même manière que le cycle annuel des soirées, ça sera un cycle semi-ouvert. Alors je conseille aussi de le suivre en totalité et le niveau d'implication va aussi évoluer progressivement dans l'année. Mais comme pour les soirées, chaque rencontre est indépendante, chaque rencontre a son thème en particulier et chaque rencontre peut être suivie séparément. Mais vous aurez un plus grand bénéfice en suivant la progressivité, le fil de toutes les rencontres cumulées. Voilà, alors le cycle annuel, il comprend en premier une après-midi soirée d'introduction à la démarche. Donc c'est la première rencontre, c'est une introduction. Donc ça va être 15h, 21h et dans cet après-midi on va faire des exercices qui vont montrer comment on démontre la relation à travers des exercices, comment on apprend sur les relations à travers des exercices. Donc ce sera ouvert à tous, il n'y aura pas de prérequis, on peut commencer sans prérequis, sans connaissance préalable du tantra. C'est juste que vous choisissez d'y aller avec un peu plus de profondeur directement. Mais ce n'est pas pour autant, ça ne nécessite pas de connaître forcément le tantra. Il y a aussi une progressivité. Donc après cet après-midi, il y a 6 journées complètes de pratique réparties dans l'année. Donc c'est toujours le samedi. Et toujours de 10h à 21h, sachant que la nourriture est autogérée. Ça, je l'ai dit. Donc, vous avez 6 journées qui sont évolutives. Et puis, 3 stages de week-end résidentiels qui se passeront ici. C'est de 10h du matin le samedi à 20h le dimanche. Hébergement inclus, donc on dort sur place et nourriture autogérée. Donc, une après-midi, 6 journées, 3 week-ends. Toujours sur la relation. Si vous optez pour l'engagement à l'année, vous aurez un tarif préférentiel, une réduction conséquente, mais vous pouvez vous engager pour 4 rencontres ou vous pouvez vous engager pour 7 rencontres. Donc je fais des paliers. Voilà, je conseille bien sûr le cursus complet. Et puis, donc ça, c'est les deux cursus individuels, ceux que vous pouvez faire sans qu'il y ait besoin d'être en couple, mais vous pouvez aussi vous insérer dedans en couple. Hein. Ils sont ouverts aux couples, aux individus et aux duos. Et il y a un troisième cursus annuel, celui-là, il est réservé aux couples, hein, c'est Tantra tissu de relation pour couple. Donc, on s'inscrit forcément en couple, deux par deux. Ça représentera une approche adaptée au couple de la démarche tissu de relation. Donc, on va parler plus précisément et plus en profondeur de la relation de couple, mais on va quand même inclure la relation à moi, la relation à l'autre, la relation amoureuse, la relation sexuelle et la relation au tout. Cependant, on va donner une place plus importante à la relation de couple puisque c'est éminemment le sujet. Voilà, par exemple, améliorer mon estime de moi dans le couple pour améliorer la qualité de la relation du couple, hein, dans ce couple-là. Si j'augmente mon estime de moi, automatiquement, je vais influer sur la qualité de la relation de couple. Donc, on explorera quand même les 5 niveaux de la relation qui sont détaillés dans ma démarche. Mais on fera des exercices plus précis, plus destinés au couple que les autres stages. Donc, on peut venir en couple, mais on peut venir aussi en duo homme-femme. Un homme et une femme qui voudraient expérimenter la démarche tissu de relation pour couple peut s'inscrire à deux, même s'ils ne sont pas en couple. Il suffit qu'ils aient une volonté commune d'explorer tous les enjeux et tous les défis qui sont présents dans la relation de couple. C'est suffisant. Donc, ils vont être un pseudo-couple, je dirais, mais ils seront considérés comme un couple. C'est un duo, homme-femme. Donc, il y aura un cycle annuel aussi pour les couples, progressif également, de 9 rencontres, pour approfondir le tantra couple sous l'angle des 5 niveaux de relations proposés par la démarche. Et c'est comme pour les autres cycles annuels, c'est un cycle semi-ouvert que je conseille de suivre en totalité, mais qu'on peut suivre, chaque séance peut être suivie séparément, chaque séance a son thème. Et on peut venir ponctuellement en cours d'année, mais on vient quand même en couple, hein, même si on vient ponctuellement. Alors, il n'y a pas de prérequis de vivre ensemble, il n'y a pas de prérequis d'être ensemble depuis longtemps. Hein, on peut s'être connu depuis très peu de temps, ou on peut vivre ensemble depuis 20 ans, peu importe. La seule chose qui compte, c'est la volonté d'explorer les défis ensemble, la volonté d'explorer les enjeux ensemble. Et puis, je rajoute qu'il n'y a pas de mélange entre les couples lorsqu'il y a des exercices deux par deux. Les exercices qui sont intimes sont faits seulement dans le cadre du couple et il n'y a pas non plus de pratique sexuelle dans ces stages couples. Donc, quand ce n'est pas intime, les personnes peuvent se mélanger. Mais dès qu'on a accès à quelque chose d'intime, les couples sont avec leurs partenaires. Ça, c'est les choses particulières au tantra couple. Donc, comme pour le cycle annuel des journées et week-ends, il y a une après-midi soirée de 15h à 21h spécifique au couple, sous forme d'exercice pratique qui va être ouverte à tous les couples ou tous les duos sans prérequis, de 15h à 21h. Et puis, il y aura 6 journées complètes de pratique, toujours le samedi et toujours de 10h à 21h. Nourriture autogérée, ça veut dire que chacun amène une partie des repas. Et puis, il y aura 2 stages de week-end résidentiels qui se passeront aussi sur place, de 10h le samedi à 20h le dimanche, de la même manière que les stages pour individuels, hébergement inclus, nourriture autogérée. Et vous pouvez aussi vous engager à l'année avec un tarif adéquat. Et vous pouvez aussi vous engager pour 4 ou 7 rencontres différentes, séparées. Hein. Un pack. Voilà. S'il y a des questions, je peux y répondre. Il y a beaucoup de points que je n'ai pas abordés. Et vos questions seront pour moi l'occasion de développer certains points. Qu'est-ce qui vous manque dans ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit? Oui.
Non, j'ai vu sur ton site internet qu'il y avait aussi comment transformer la colère.
Oui, sur mon site internet, il y a comment transformer la colère. Voilà, ça peut bien sûr être l'objet dans un stage de tantra de vérifier que la colère m'appartient. Cependant, ce que je propose sur mon site, c'est des séances individuelles, hein, ce n'est pas des groupes. Donc, si je suis très très encombré par la colère, je donne des opportunités d'ouvrir la soupape, de laisser sortir la vapeur avec des séquences. Cela dit, dans le tantra, c'est possible que si je suis très chargé en colère et que je vienne dans un stage, ben, j'ai eu une occasion d'extérioriser ça, d'extérioriser d'une manière positive, sans nuire à quiconque, sans agresser quiconque, simplement en voilà, frappant sur un coussin ou en criant, hurlant, pas sur quelqu'un, hein, mais de moi à moi. Donc, chaque émotion, j'en suis responsable, hein, même si c'est le déclencheur en face qui, soi-disant, l'a déclenché. Si j'étais tranquille à l'intérieur, le déclencheur n'aurait pas fait cette action-là. Donc c'est en moi. Okay.
Il y a des soirées de méditation, trois par semaine, c'est ça?
Oui. Alors, c'est la méditation active, hein. Il y a aussi, donc c'est du tantra, mais ça ne fait pas partie de ce cycle tissu de relations que j'ai exposé. C'est un groupe qui existe depuis 7 ans et qui est ouvert à tous les individuels sans aucun prérequis, ni de tantra, ni de méditation. Hein. C'est des méditations qui durent une heure. On active le corps de chaque mercredi d'une manière différente. Donc, il y a 14 méditations que moi, je fais pratiquer, qui ont été en partie créées par Osho et en d'autres parties que moi j'ai rajoutées. Donc ça a lieu chaque mercredi à Paris 20e, au métro Alexandre Dumas. Ça coûte 5 euros. C'est déjà du tantra, c'est une manière de voir ce que c'est qu'un groupe de tantra dans lequel il n'y a aucune interaction entre les personnes. Hein, c'est tout ce que je le fais de moi à moi. Mais ça peut avoir beaucoup d'actions sur moi, hein, ce que je fais, parce qu'on peut respirer, on peut se secouer, on peut chanter, on peut danser, on peut faire plein de choses, mais qui sont destinées à libérer des choses à l'intérieur avant de nous asseoir en silence. Si je m'assois en silence très perturbé, mon silence ne va être aussi perturbé que je le suis. Hein, il ne sera pas profitable. Mais si je libère la perturbation dans la danse, dans la secousse, dans le chant, etc., alors, il y a fort à parier que mon silence sera beaucoup plus tranquille parce que j'ai pu donner un espace d'expression. Donc, c'est le but de ces groupes du mercredi. À part ce groupe qui est pratiquement tous les mercredis, il y aura, cette année, ça va commencer, un mardi par mois, c'est en fin de mois, il y aura une initiation à la méditation Vipassana, qui est une méditation entièrement passive. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont déjà une expérience de la méditation et qui veulent aller plus loin, et on explore une heure de silence. Donc c'est, on observe, quoi qu'il se passe, hein, tous les aspects. Tout ce qui est à observer, on observe. Et dans l'année, on va aller progressivement jusqu'à 2 heures. Hein. Mais c'est pas une initiation à la méditation tout court. C'est une initiation à cette technique-là de méditation. Et je suggère de commencer par la méditation active ou d'autres formes de méditation. Parce que une heure de silence, lorsqu'on n'a pas l'habitude de méditer, ça peut être très long et très difficile. Cela dit, il n'y a pas de vérité valable pour tout le monde. Hein. Ça peut être aussi très, très profitable pour vous.
J'avais deux questions, mais pas de pratique.
Donc je résume pour le micro. Quelle est la différence entre la relation amoureuse et la relation de couple que tu as appelée la relation en amour?
Mais
voilà, ok. On peut dire ça comme ça. Hein. Chacun le dit comme il le souhaite. Et la deuxième, c'est quelle est la vision du tantra par rapport à l'attachement dans la relation amoureuse ou dans la relation de couple, hein, puisque ça peut s'exercer dans les deux. Excellente question sur laquelle on pourrait parler très très longtemps. Donc, dans la relation amoureuse, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait désir mutuel, il y avait désir de se rapprocher. C'est l'expérience du désir de se rapprocher parce que, je vais schématiser, « Oh, tes muscles qui me plaisent, tiens, j'ai envie de me rapprocher pour les toucher. » Ouais, ta beauté, elle me charme, j'ai envie d'être plus près pour en profiter. Et d'une manière comme d'une autre, j'ai envie de compléter quelque chose qui est à l'état de germe en moi, qui a envie de se développer. Bon, c'est un peu des caricatures, mais ça peut être aussi ta tournure d'esprit me plaît bien. J'ai envie de te côtoyer davantage pour en apprendre plus, pour avoir aussi moi-même cette tournure d'esprit qui me plaît bien. Hein, voilà. Donc, le premier stade de la relation, c'est cette attraction qui doit forcément être mutuelle pour que la relation amoureuse se décide. Et elle se décide à deux. Hein. S'il y en a un seul qui veut entrer en relation amoureuse mais que l'autre n'est pas attiré, en général, ça ne se fait pas. Ou alors ça s'appelle un viol. Mais bon, ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, chaque fois qu'il y a désir mutuel partagé de se rapprocher, on peut dire que si on accepte de le faire, on rentre en relation amoureuse. La notion de couple intervient lorsqu'on veut construire un engagement par-dessus ce désir mutuel de se rapprocher. C'est quelque chose qui veut se construire dans le temps, ou par exemple un engagement sur créer une structure de foyer, un lieu commun de vie ou des enfants, ou, voilà, une structure où en plus du désir mutuel de s'explorer, de se rapprocher, on a une vision du couple comme un moyen d'évoluer ensemble. C'est plus seulement « tiens, rapproche-toi de moi parce que c'est bon ». C'est plus seulement ça. C'est bon, mais j'ai envie d'approfondir ça pour devenir un avec toi. Hein. Cela dit, on raccourcit. C'est parce que j'ai envie de devenir un avec toi que je dis, est-ce que tu veux fonder un couple avec moi? Est-ce que tu veux, même si ça se dit ou si ça ne se dit pas, est-ce que tu veux essayer de faire un chemin d'évolution à travers le couple avec moi? Voilà ce que moi, ce qui est ma vérité par rapport à la différence entre ces deux relations. Donc, une relation amoureuse, elle peut durer une heure, elle peut durer un jour, elle peut durer 10 ans, elle peut durer 20 ans. Une relation de couple, voilà. Généralement, c'est plus long, mais elles peuvent aussi s'abréger, se couper très vite, parce qu'il y a des défis, il y a des enjeux, et parfois, je ne suis pas prêt à les relever. Hein. Donc, c'est pas la durée n'est pas un indicateur de la qualité, hein, de la relation. Voilà pour la première question. Et puis l'attachement. Comme son nom l'indique, l'attachement, ça mesure votre liberté à la longueur de la corde. Hein, si vous attachez une chèvre, elle est libre parce qu'il y a un piquet et puis il y a une corde. S'il n'y avait pas de piquet, il n'y aurait pas non plus besoin de corde. Hein, donc il y a à la fois le piquet et la corde qui vous attachent. Donc le piquet, c'est « reste là ». C'est un ticket d'entrée. Hein, c'est un ticket « allez simple », l'attachement. Donc le piquet, c'est « reste ici que je t'ai à l'œil ». Surtout, il est planté là, le piquet, pas trop loin de moi, pour que je sache où tu es. Parce que j'ai besoin de contrôler ce qui se passe. Et la longueur de la corde, c'est la liberté que je te laisse. Donc, c'est une petite caricature hein, que j'ai fait pour montrer qu'il n'y a aucune liberté avec l'attachement. L'attachement, C'est une prison qui ne dit pas son nom. Si je suis attaché à toi, ça veut dire que je ne suis pas libre par rapport à ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Je ne réagis pas librement. Si je suis en amour avec toi et pas attaché à toi, si tu as envie de faire quelque chose et que je t'aime vraiment, il n'y a pas de corde. S'il y a une corde, c'est que j'ai peur que tu ailles trop loin de moi et que ça me met en danger. Mais ça vient d'une peur. Et cette peur, c'est l'attachement. En particulier, hein. Parfois, on peut dire « je suis attaché à toi » pour dire « je t'aime ». Attention aux déformations. Mais si je suis attaché à toi au point que te laisser partir, ça me fait souffrir, ça veut dire que je ne suis pas assez libre pour te laisser partir. Ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui est souffrante et qui ne tolère pas que tu ne sois pas avec le piquet et la corde. Hein. Que ça le dise ou pas, c'est difficile à reconnaître parfois. Hein. Tu ne feras pas ce que tu veux. Je t'aime tant qu'il y a le piquet et tant qu'il y a la corde. Mais s'il n'y a plus de piquet et de corde, c'est terminé entre nous. Là, c'est un vrai attachement. Hein.
C'est se concilier, être en amour sans... Comment concilier être en amour sans attachement ? Parce qu'il y a quand même un lien affectif. Donc, si l'autre part ou si l'autre n'est plus là... Il y a quand même une souffrance de par le lien, le côté agréable qui est nourrissant du lien.
Voilà, alors pour ça, il faudrait que tu t'inscrives. Hein. Je vais quand même donner un petit indice, mais on va loin dans la relation, là. Si le fait que l'autre part me provoque une souffrance, ça veut dire que je ne suis pas complet. J'ai besoin de l'autre pour être heureux ou heureuse. Ce qui normalement, si je suis un être développé en amour avec moi-même, je dirais idéalement, bien sûr, c'est rare de trouver ça, hein, mais je devrais pas, mon bonheur ne devrait pas dépendre de la présence physique de l'autre à mes côtés. Hein. S'il dépend de cette présence-là, bon, je vais peut-être avoir un petit peu de tristesse s'il part, mais mon bonheur ne va pas partir avec cette personne. J'ai le droit d'être triste. Mais ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas des choses profondes. Ça va être, j'aurais aimé que tu restes, mais comme tu es libre de partir, je suis triste, mais j'accueille que tu souhaites partir. Tu vois la différence ?
Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont dans ce que tu décris. Je n'en connais pas autour de moi.
Voilà, tu dis... que tu ne connais pas beaucoup de gens qui sont dans ce que je décris.
Ils peuvent se séparer d'une personne à qui ils sont attachés en ayant peu de souffrance. Quoi.
Voilà. Oui. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se séparent sans souffrance. C'est là où le couple nous révèle ses défis. C'est là où le couple nous révèle ses enseignements. Si je souffre parce que tu es parti... Je vais souffrir, je vais pleurer un mois, deux mois, six mois, et après je vais me poser les vraies questions. Hein, et je vais renforcer cette partie faible en moi qui dit « surtout ne pars pas, parce que je vais être horriblement malheureux ou malheureuse. » Et à la prochaine relation, les ayant renforcés, je vais avoir plus de liberté avec toi. Peut-être pas totale, mais je vais pleurer seulement deux mois au lieu de pleurer six mois. Hein. Ou une semaine.
Je pense qu'il y a deux niveaux. Il peut y avoir une souffrance, une vraie douleur qu'il peut avoir qui va être physique, des larmes, des colères, mais un fond qui peut savoir aussi que peut-être la meilleure chose à faire, la chose qui se passe, c'est la liberté. Je pense à, là, ce qui me vient, c'est un parent à un enfant. Une mère qui va laisser son enfant aller partir à l'étranger ou autre chose, elle peut en souffrir, mais savoir que c'est la meilleure chose à faire et le laisser faire. Et là-dessus, on sait que, enfin, moi, je vois vraiment deux niveaux. Je vois la réalité de la situation qui est acceptée, parce qu'on sait que c'est le meilleur. On espère, on va tester comme ça. Et malgré ça, il va y avoir des émotions. Et malgré ça, il y a forcément des choses qui sont humaines, qui vont ressortir.
Voilà, donc il y a deux niveaux, comme dit tout à fait bien Maxime. Ces niveaux... va pas développer, puisque ce n'est pas un groupe de parole, hein, bien sûr, c'est un groupe sur le tantra, mais je peux à la fois souffrir et à la fois accepter que l'autre est libre et que je ne contrôle pas tout dans sa vie. Donc dans le tantra, on va essayer de développer l'autonomie affective. Personne n'est complètement autonome affectivement. Donc c'est un idéal, une utopie vers laquelle on voudrait tendre, mais on va essayer d'être moins dépendant des autres, de l'autre, affectivement, et on va essayer de se construire émotionnellement plus en profondeur, avec, en apprenant sur soi, en apprenant sur les côtés faibles, les côtés vulnérables, les côtés émotionnels, et je dirais aussi les côtés émotifs. L'émotivité, c'est pas la même chose que le côté émotionnel. C'est, je vais partir dans l'émotion, je vais être vulnérable aux émotions très rapidement. Quelle que soit la situation, je vais plonger dans l'émotion. Et finalement, je ne vais pas pouvoir réellement me construire parce que je vais directement aller dans l'émotivité. Hein, c'est à outrance un petit peu. Oui.
Est-ce qu'il ne se passe pas moins de choses quand tu es détaché de tout ça? J'ai l'impression que quand... quand tu as des envies, des blessures, des choses qui font que tu es attiré par des gens ou s'approcher, qui se passent des choses, alors que quand tu es beaucoup plus détaché, moins dans l'attachement, ça ne forme plus de plat. Enfin, je veux dire,
voilà, oui. Oui, 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 c'est une question que je vais répéter parce qu'elle est très intéressante. Est-ce qu'il se passe moins, est-ce qu'il ne se passe pas moins de choses lorsque je suis détaché? Est-ce que ce n'est pas plus plat que lorsque j'ai des défis, des blessures, des enjeux, etc. avec l'autre? Ça, c'est une croyance. Hein. La version du tantra que j'ai adoptée, c'est la joie que je suis a plaisir à se partager avec la joie que tu es. Si je suis complet à l'intérieur, si je suis dans quelque chose qui rayonne, ma vie prend plaisir à rayonner à tes côtés et ça devient extatique de le faire. Ça, le désir ne part pas seulement d'un manque ou seulement d'une souffrance. Alors, on le construit ensemble et encore une fois, je dis, c'est quand même utopique, hein, c'est quand même un idéal vers lequel on tend d'être complètement réalisé parce que nous sommes humains et donc nous restons avec une part d'ego, même si elle diminue avec le temps. Nous restons avec une part d'essayer de contrôler l'autre, même si ça peut diminuer avec le temps. Mais c'est pas parce que je suis détaché que je suis indifférent. Hein. C'est très différent les deux choses. Je suis détaché, ça veut dire que je ne pars pas dans l'émotion ou dans la souffrance lorsque tu dis ça, ou lorsque tu fais ça, ou lorsque tu me juges. Mais par contre, je vais multiplier les occasions d'avoir des moments de bonheur avec toi. Hein. Si je vais, par exemple, au lieu de faire une crise de couple, je vais te proposer une vague tantrique, ça va être un moment de bonheur qu'on va partager. Hein, au moment où on aurait pu se prendre le chignon sur d'autres choses qui dit « tu fais jamais la vaisselle », voilà, des choses comme ça. Hein, ou « c'est toujours moi qui fais les comptes ». Donc, ma chérie, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une vague tantrique, qu'on fasse un rituel tantrique ce soir avec des chandelles, avec du sacré? Donc, c'est loin d'être plat, c'est loin d'être ennuyeux. C'est peut-être l'idée qu'on s'en a quand on est encore dans les choses difficiles, souffrantes, que finalement, il ne se passera plus rien quand on aura tout réglé. Hein. Mais il se passera beaucoup plus de choses, et il se passera beaucoup plus de choses épanouissante parce que on sera en correspondance l'un avec l'autre. Donc dans la démarche que vous pourrez prendre avec vous en repartant, j'ai détaillé une série de beaucoup de questions hein, sur chaque aspect de la démarche, la relation à moi. Il y a une vingtaine de questions, 20 ou 30 questions. Par exemple, est-ce que je me sens libre? Hein, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre individuellement. Dans la relation aux autres, il y a toute une série de questions. Dans la relation amoureuse, il y a toute une série de questions qui sont plus propres la relation amoureuse, dans la relation de couple également, et dans la relation au tout aussi également. Oui, il fallait que vous veniez, hein. Vous êtes peut-être des privilégiés qui auront des phrases. Alors, n'oubliez pas que le tantra, c'est une démarche spirituelle, hein, vraiment spirituelle. Ça passe par le corps, ça passe par la relation, ça passe par le miroir, le déclencheur. Mais le but, c'est de revenir à qui je suis en réalité. Un être qui est omnipotent, omniscient, qui est illimité, qui est invulnérable, qui n'est pas dans le corps. Bon, on passe par le corps pour aller à l'esprit. Hein, mais c'est une démarche qui est dans son fondement, elle est spirituelle. Ça veut dire que l'homme et la femme se sont séparés artificiellement, entre guillemets, pour jouer à se retrouver, artificiellement aussi, pour avoir la joie de refaire quelque chose d'unifié. C'est tout, c'est ça la démarche spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans les groupes de tantra. Ces 112 pratiques-là, je peux les donner à ceux qui veulent pratiquer, hein, je peux les communiquer. Mais elles ne sont pas communiquées à ceux qui veulent lire. Elles sont précieuses, sacrées. Elles sont précieusement gardées pour ceux qui veulent pratiquer. Non. Tu peux les obtenir si tu t'engages à pratiquer, ou au moins essayer de pratiquer. Moi, je les ai, oui. Mais tout le monde n'a pas cette approche, hein. Moi, j'ai cette approche, et c'est indiqué dans le texte que ça ne doit pas être communiqué aux personnes qui ne veulent pas pratiquer. Parce que c'est un trésor. Tu ouvres une malle avec des trésors, des colliers, de l'or, des rubis, et puis tu la refermes sans profiter du trésor. Donc c'est pour ça qu'on dit pratique, c'est-à-dire utilise les pièces d'or, les joyaux, les rubis, fais-toi, deviens riche personnellement, et à ce moment-là, tu auras montré que l'enseignement servait à quelque chose. Et si tu refermes la malle tout de suite, donc on ne donne pas la malle si la personne veut simplement regarder et la refermer. Alors, l'image, c'est ça, hein. Une des méditations, puisqu'on en parle, c'est lorsque tu retrouves un être cher, sois complètement dans cette félicité et pénètre un espace lumineux. Tu vois, ça, c'est une méditation des 112. Ça veut dire que l'être cher qui vient à moi après 20 ans d'absence, que je chéris de tout mon cœur, il ne m'amène pas la joie, en vérité. Il me rappelle que je suis déjà joyeux. Il fait le déclencheur. Et si je me rappelle que cette joie-là est en moi à chaque fois que je suis tenté de dire que la joie réside en lui, alors j'accède à l'espace lumineux de ma propre lumière. Si je n'oublie jamais que je suis joyeux tout le temps, en permanence, que cette joie réside en moi, même si elle est masquée, hein, par le moment. Voilà, donc ce précepte-là, lorsqu'il est complètement intégré, il amène à l'illumination. Lorsque j'arrête d'attribuer ma joie ou ma colère ou quoi que ce soit d'autre à l'autre qui est en face. C'est ça qu'il veut dire.
Donc en fait, le tantra, c'est une philosophie de vie, ou ça peut être une philosophie?
Voilà. Le tantra, est-ce que c'est une philosophie de vie? Oui, c'est un art de vivre, c'est une vision du monde. C'est juste un art de regarder les choses différemment. Donc, si je regarde les choses avec un œil critique, je vais souffrir. Si je regarde les choses avec neutralité, avec détachement, je vais rester tranquille à l'intérieur. Mais pourtant, le monde m'aura présenté la même chose. Le monde n'aura pas changé, mais ma vision, oui. Donc, le tantra, ça peut être aussi un art de vivre qui consiste à changer de vision. Ah oui, c'est thérapeutique, bien sûr. Les groupes ne sont pas des groupes de thérapie, mais ils ont des effets thérapeutiques. Parce que dès que je change de vision, je guéris des choses en moi. Donc, ils ne sont pas destinés à vous guérir. Hein. C'est une voie de libération. La libération et la guérison, ce n'est pas exactement la même chose. Hein. La libération, c'est déconditionner l'esprit. Partout où on m'a dit, on m'a répété, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne te conduis pas comme ça. Partout où on a dit ça, je mets mon libre arbitre et je me dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? J'y crois ou j'y crois pas? Et là, je libère l'esprit. je fais les choses par rapport à moi et j'arrête de les faire par rapport à ce qu'on m'a dit. Alors, qui conditionne l'église, le temple, le professeur à l'école, le père, la mère, les grands-parents, les ministres, les gouvernements, les lois, tout. Voilà, tout. Et nous, dans Tantra, on essaye de retrouver un esprit non conditionné, l'esprit naturel. L'esprit naturel n'est pas conditionné. C'est artificiel, les conditionnements. Donc, on voudrait retrouver une liberté d'esprit qui dit, si je veux croire à ça, j'y crois, et si je ne veux pas y croire, je n'y crois pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette liberté. Chez la plupart des gens, par exemple, on croit qu'on est en démocratie et que quand on vote pour ci et ça, ça va avoir tel effet, et puis ce qu'on voudrait va se réaliser, mais c'est ce qu'on voudrait qu'on croit. Hein, mais en vérité, ce n'est pas réellement ça. C'est une manière raccourcie de le dire, que nous sommes manipulés par ça. Voilà, les religions vous disent « sois bon, tu iras en enfer », etc. Est-ce que j'ai envie de croire à ça? À l'école, on me dit « sois sage et tu auras une image ». Voilà, on dit des tas de choses. Donc, le tantra dit « soyez détendu et naturel et soyez libre ». Et ensuite, décidez en partant de la liberté, mais pas en partant de la peur, ou pas en partant d'une chose qu'on m'a répétée, parce qu'il peut y avoir 100 générations avant vous qui vous ont répété, fais comme ci, fais comme ça. Et finalement, vous allez le répéter à vos enfants, si vous en avez, ou vous l'avez déjà répété, parce que c'est naturel pour vous de le répéter, parce que tout le monde le répète. Mais en vérité, on ne se pose pas la question, ou rarement, est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que c'est juste? Certains conditionnements seront justes. On bazarde pas tout, hein. Certains conditionnements, je les mets à l'aune de mon discernement. Et c'est ça, le déconditionnement de l'esprit, c'est de moi à moi. C'est fini, c'est plus de moi à la société, c'est plus de moi au prêtre, c'est plus de moi au politicien, c'est de moi à moi. Est-ce que cette chose-là me convient? De moi à moi. Dans le tantra, on me dit, tu veux faire l'exercice avec moi? Je ne dis pas oui pour faire plaisir à l'autre. Je me pose la question, est-ce que ça me convient de moi à moi? Si ça ne me convient pas, je dis non, parce que soyez libre. Hein, j'ai un libre arbitre. Et je le développe dans le tantra, on ne me juge pas si je dis non, parce que je n'ai pas envie de faire l'exercice avec toi. Et donc la personne va voir quelqu'un d'autre. Et moi, je dirais oui, seulement quand j'aurai envie de faire l'exercice avec la personne qui est là. Et s'il n'y a personne avec qui je veux faire l'exercice, ben je ne ferai pas l'exercice du tout. Et donc, je me respecterai jusqu'au bout. Voilà ce que veut dire déconditionner le mental. Faire des choix qui me représentent, qui ne sont pas représentés par d'autres. Si je dis oui pour faire plaisir, pour faire court, je dirais c'est mal barré. Hein, quel que soit ce qui se passe après, c'est mal barré. Parce que vous ne vous êtes pas respecté dès le premier pas. Oui. On a encore 5 minutes, hein, si vous avez des questions importantes. Oui, j'ai compris ta question. Qu'est-ce qui différencie le tantra des autres méthodes d'évolution personnelle?
Je pense qu'on arrive à la même chose.
Oui, les autres voies d'éveil. Alors, dans le tantra, la particularité, c'est qu'on fait des pratiques qui sont basées sur le vécu et le ressenti. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ce n'est pas du tantra. C'est le, je vous ai lu le menu du restaurant. Hein? Et après, on va passer à table et on va vous servir des plats. Et vous allez les manger. Et là, ça va être du vécu. Vous allez pouvoir dire, j'ai fait une expérience. Et donc, c'est plus de l'intellectuel. Eckhart Tolle, je peux le lire et le relire et le relire. Et puis, je peux ne jamais l'appliquer. Sauf que là, je viens dans un stage de tantra pour faire des pratiques, pas pour discuter. Je vais quand même pouvoir parler de moi, mais c'est une pratique quand je témoigne de mon vécu, c'est une pratique. Hein. C'est un témoignage. Donc, le tantra, c'est 100% pratique. Et puis, c'est en accéléré. On vit un monde en accéléré parce qu'on fait pratique sur pratique. Et pour terminer, je dirais que dans le tantra, il n'y a pas de complaisance. C'est radical. C'est radical. Hein. Osho est radical. On regarde les choses en face et on n'est pas en train de dire « Oui, je sais, j'ai ça en moi, mais ça m'embête tellement que je ne veux pas le voir. Hein. » Voilà, ça, c'est renvoyé en direct. Oui. Alors, quelle est ta question ? Quelle est ta question ?
Ben, la question, c'est que j'ai pas le choix, je suis sur une règle. Là.
Tu parles du monde extérieur ?
Oui.
Alors, François nous dit, j'ai pas le choix, dans le monde extérieur, il y a des règles, et je suis sur des règles. Alors, justement, nous parlons de changer le monde en changeant notre vision du monde. Dans un monde où il y a des règles, je peux être dans le monde sans être du monde. Ça veut dire que le monde me demande de me conformer à certains choix. Et je peux tout à fait être en société, dans le métro à 18h, et en ayant à l'intérieur un esprit libre. Hein. C'est-à-dire, je vais jouer le jeu, mais je ne vais pas y croire. Je vais avoir des relations plus libres avec mes partenaires professionnels, avec mes partenaires amoureux, mais je sais que les règles sociales, ben, je vais les suivre, parce que pour l'instant, il n'y a pas autre chose. Quand il y aura un certain nombre de gens qui auront libéré leur esprit, c'est un peu l'histoire de Matrix, hein, quand il y aura un certain nombre de gens qui auront libéré leur esprit, forcément, les règles sociales du monde vont changer. Et c'est appelé à venir assez rapidement, je pense aussi. Oui. Non, on parle de règles de relations sociales, on parle de conditionnement, on parle de tout ce qui conditionne l'esprit. Hein. Le tantra, c'est une voie de libération de l'esprit, c'est pas de libération des réacteurs d'avion.